La chronique qui déballe. Une émission pour mieux consommer et protéger votre santé, sans oublier la planète. Bonjour Strasbourg, bonjour au quartier Cronenbourg, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent cet après-midi pour notre nouvel épisode de notre émission radio, La Chronique qui déballe. Une émission pour parler santé et environnement au quotidien. Un espace radiophonique pour échanger avec des experts sur la consommation afin de préserver notre environnement et notre santé. Des substances toxiques peuvent se trouver dans les produits que nous utilisons tous les jours sans le savoir. Alors comment apprendre à identifier ces produits à risque tels que les perturbateurs endocriniens, des allergènes, des pesticides et d'autres micropolluants? Vous êtes dans la chronique qui déballe, l'émission qui donne la parole aux habitants du quartier de Cronenbourg. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis la loge du gardien, Batigère Grand Est. Merci de nous accueillir. Pour ce troisième épisode, nous allons discuter des substances dangereuses pour la santé et l'environnement qui peuvent être utilisées dans le jardinage, en intérieur et en extérieur. Pour y répondre, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Jean Dessès, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et nous avons également avec nous Hervé Polessi, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la coordination des élus du quartier, l'accueil du public et les jardins familiaux. Bonjour.
Bonjour Strasbourg.
Et soyez les bienvenus. La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Le moment jardinage est un moment privilégié avec la nature, de calme et de plaisir. Que nous ayons un jardin privé, partagé, un bout de balcon ou des plantes d'intérieur, il est agréable de retourner aux sources et de prendre soin de ces organismes vivants. Malheureusement, parfois, ce retour aux sources se fait souvent de façon artificielle. Avant de comprendre quelles substances se cachent dans nos produits, écoutons d'abord les habitudes de consommation des habitants du quartier de Cronenbourg. Les défricheurs sont partis à leur rencontre pour un micro-trottoir. Écoutons-les. Quels produits utilisez-vous dans votre jardin ou pour prendre soin de vos plantes?
Aucun. De l'huile de coude. J'arrache les mauvaises herbes quand il y en a.
De l'eau.
De l'eau?
Du panade. Parfois, j'aille au marché, celles qui sont bien, bien mûres, que les gens ne l'achètent pas, moi je l'achète.
J'ai un compost aussi, tout ce que déplichions, mon légume et tout ça dans le compost. Après, je n'utilise rien. Rien.
Pour le jardin, j'utilise pas d'insecticides ou de. D'herbicides.
On n'utilise pas de produits. On met notre compost comme engrais et on fait de la bouillie d'ortie pour les pucerons.
D'accord. Moi, de l'eau. Sinon, j'essaye de chercher là actuellement de l'engrais naturel pour mes plantes.
Faites-vous attention à leur composition?
Oui, bien entendu. Et je cherche des vieilles souches pour ramener des animaux. On a fait un hôtel insectes. Et puis qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, un petit tas de sable et puis plein de pièges pour les insectes et les animaux.
Oui, quand il y a des pucerons, je fais du vinaigre blanc avec de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Et avec ça, je soigne.
Ah oui, tout à fait, oui. Pour éviter les produits chimiques, quoi.
Pourquoi ce choix de produits? Pensez-vous qu'ils peuvent avoir un impact sur notre santé et l'environnement?
Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Entre les perturbateurs endocriniens et puis aussi tous les produits dits phytosanitaires, mais ça, rien de sanitaire au contraire.
De santé plutôt.
Par moyen déjà, c'est trop cher. Et en plus, je préfère parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que je veux manger.
Parce qu'il y a des produits, justement, qu'on ne connaît pas et qui sont apparemment nocifs. Mais on n'a pas d'autres connaissances plus que ça. Donc on évite, c'est tout. Puisque si vous avez marqué sur un paquet chlorohydroxy, machin truc, qu'est-ce que vous voulez y comprendre? Vous ne savez pas, vous pensez que c'est nocif, c'est tout. Donc vous évitez.
Bah, je pense que même si aujourd'hui on n'utilise plus de pesticides dans les jardins, il reste des trucs pas très bons pour la santé, quoi.
Tout d'abord, on est forcé de constater que le jardinage ne fait pas forcément partie des préoccupations et des habitudes de tout le monde, surtout en ville. Ensuite, ces témoignages montrent que les produits utilisés sont rarement industriels. Il est de plus en plus dans la norme d'utiliser des produits naturels pour prendre soin de nos plantes. On constate que parmi les personnes interviewées, peu achètent de produits chimiques en magasin. Et qu'en pensent nos experts ? Monsieur Dessès, c'est une généralité pour vous ?
Alors, tout d'abord, une réaction par rapport à ce que j'ai entendu. J'ai entendu beaucoup de choses très, très intéressantes et très, très positives sur l'huile de coude, sur rien, sur le compost en engrais. La biodiversité avec les hôtels à insectes et puis aussi cette idée d'un risque d'impact sur la santé, les phytosanitaires qui sont peut-être pas si sanitaires que ça, c'est un mot très intéressant. Alors ce que je voudrais dire de façon générale, c'est que nous avons beaucoup de chance dans le cas de nos jardins, parce que contrairement à l'agriculture de façon générale, il existe une loi qui s'appelle la loi Labbé de 2014 et qui, aussi bien pour le territoire public que pour nos jardins, qui interdit d'utiliser un certain nombre de produits. De produits qu'on appelle pesticides ou phytosanitaires de façon générale. Et cette loi donc restreint l'usage pour nos jardins en particulier à un certain nombre de produits dont le risque est moindre. Alors je précise moindre parce que ce n'est pas tout à fait exempt de nocivité et de danger. On va le voir tout à l'heure.
Et vous, Monsieur Polici, donc vous vous occupez des jardins familiaux. C'est important pour vous de jardiner? C'est quelque chose que vous portez?
Je vais confesser une inaptitude profonde au jardinage de ma part. Je suis un très, très mauvais jardinier. Mais par contre, je suis très attaché à ce que les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises puissent exercer cette activité s'ils le souhaitent. Pour beaucoup de familles, c'est une vraie source alimentaire. Hein, c'est pas juste du loisir, c'est un vrai complément alimentaire. Je connais même des jardiniers pour qui c'est l'unique source de légumes. Alors on parle de gens qui ont une expertise forte, hein, qui cultivent toute l'année, qui font des légumes d'hiver. Enfin, on a un très haut niveau de compétence, hein, du patrimoine immatériel plus. Et oui, c'est important que les gens puissent accéder à cette possibilité quand ils ne l'ont pas dans le cadre privé. Strasbourg, il y a le poids d'une histoire. C'est-à-dire que Strasbourg, c'est 4800 jardins familiaux. C'est unique en France. C'est 160 hectares sur le banc communal de Strasbourg qui sont dédiés au jardinage.
D'accord.
À côté de ces jardins familiaux, vous avez les jardins partagés qui sont des parcelles plus collectives. On en approche maintenant de la quarantaine. Vraiment, il y a un effort historique qui se maintient et qu'on tente de protéger, de faire prospérer. Et pour réagir à votre micro-trottoir, moi, quand je fais des tours dans les jardins, finalement, la plupart des gens, ça fait longtemps qu'ils ont effectivement abandonné les différents produits, que ce soit en préventif des nuisibles, des maladies, ainsi de suite, ou que ce soit en intrants artificiels. Le produit avec lequel on observe le plus de survivance, mais c'est vraiment des souvenirs, c'est l'anti-limace.
Ah.
Voilà, limace, ça reste l'ennemi du jardinier, pour celui qui ne sait pas faire autrement. Et là, on continue les actions d'accompagnement et de prévention pour que les gens abandonnent aussi ça. Voilà.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
L'objectif de notre émission est donc de mettre en lumière les substances toxiques qui peuvent se trouver dans les objets de consommation du quotidien et d'évaluer leur impact sur notre santé et l'environnement. Nous accueillons donc M. Dessèze, représentant du FC Que Choisir, une association qui observe la composition des produits au quotidien. Monsieur Dessèze, on sait que la loi Labbé, comme vous l'avez dit précédemment, interdit les pesticides dans nos jardins individuels depuis 2017 et publics depuis 2019. Notre objectif est de savoir pourquoi cette loi a été mise en place et dans quelle mesure elle est respectée. Je me tourne donc vers vous. Pouvez-vous nous dire quelles substances chimiques ont été éliminées des jardins, très exactement ?
Alors, globalement, je dirais l'ensemble des pesticides chimiques ayant un impact durable et profond sur l'environnement et la santé humaine. On peut donner comme exemple le glyphosate, par exemple, du Roundup, qui a été interdit il y a déjà une vingtaine d'années. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup d'autres. Je voudrais revenir sur les autorisations de cette loi Labbé, donc le regarder de façon positive. Et donc il y a trois types de produits qui continuent à être utilisables dans nos jardins. Ce sont d'abord ce qu'on appelle les produits de biocontrôle. Ensuite, les produits utilisés en agriculture biologique. Et ceux qui portent la mention, alors il faut la chercher dans les petits caractères, mais elle est importante, c'est la mention EAJ, c'est-à-dire emploi autorisé au jardin. Et puis des produits à faible risque, de façon générale. Alors, le l'ubocontrôle, c'est quoi? C'est tout simplement des méthodes de protection des cultures avec, grâce à des organismes vivants et ou des substances naturelles. Alors, il faut juste faire un petit peu attention, parce que naturel, ça ne veut pas dire bio, et ça ne veut pas dire non plus sans danger. Et en particulier dans tous ces produits, au moment de l'utilisation. J'ai fait un petit tour, je ne la nommerai pas, mais j'ai fait un petit tour dans l'une des jardineries sur l'Eurométropole, hier après-midi, pour tenter justement de me rendre compte de la prévalence de ces produits. Il y en avait tout un rayon, voire même deux rayons, donc l'offre est quand même très très importante. Et il faut dire que j'ai retrouvé, alors, rien d'illégal, voilà, merci cette jardinerie, mais par contre, dans ce qui est proposé, quand même un certain nombre de produits, je dirais, pour lesquels il faut prendre beaucoup de précautions. L'antilimace auquel M. Polizzi faisait référence, bah oui, c'est tout simplement du phosphate ferrique dihydraté, qui attaque tout le système digestif des limaces, mais également un petit peu le nôtre. Et donc ça veut dire que si quelqu'un souhaite l'utiliser, il est quand même autorisé dans les jardins, mais il faut prendre énormément de précautions, des gants, des combinaisons, éviter peut-être les moments de trop forte humidité, et puis après se laver les mains, se laver les avant-bras, sinon le risque c'est tout simplement d'avoir des vomissements, voire des diarrhées. Donc c'est quand même très important. Alors ces produits EAJ, Je dirais, pour moi, personnellement, il faut quand même faire très, très attention à eux et les utiliser dans les conditions qui sont proposées et avec les limites d'utilisation qui sont proposées sur les fiches de ces produits. Je dirais, pour moi, ce qu'il faudrait tendre plutôt, c'est vers d'abord des produits utilisés en agriculture biologique, et puis peut-être un petit peu plus d'huile de coude, un petit peu plus de manipulation mécanique, et également d'utiliser, par exemple, pour lutter contre nos ravageurs, des luttes par les phéromones, par exemple. Alors, j'aimerais quand même dire un petit quelque chose, parce que tout à l'heure, l'un des témoignages, je l'ai trouvé un peu limite. Cette personne parlait du vinaigre. Alors oui, le vinaigre, on l'utilise même dans nos cuisines, bien sûr, dans les salades qu'on mange. Mais le problème du vinaigre, c'est un, son utilisation n'est pas sans danger. On peut l'inhaler, on peut en mettre aussi sur la peau. Donc il est irritant et il a une efficacité comme herbicide que sur les plantes dans leur toute grande jeunesse. Donc dès que la plantule commence à prendre un petit peu de résistance, c'est terminé, le vinaigre n'agit plus. Et par contre, il va acidifier les sols et il va donc avoir des impacts négatifs sur l'ensemble de vos cultures par la suite. Donc même le vinaigre s'est présenté de façon marketing comme l'exemple du produit qu'on pourrait utiliser sans aucun danger. Eh bien non, c'est pas tout à fait vrai. Il faut vraiment en limiter aussi l'utilisation.
Quand on parle jardinage, on entend engrais, terreau, désherbants, graines, fertilisants, traitements, insecticides, on entend surtout pesticides. Mais rappelons qu'un pesticide s'apparente à un produit chimique employé contre les parasites, animaux et végétaux des cultures. Donc selon ce que vous avez dit, ils n'ont pas totalement disparu, ces produits phytosanitaires. Vous parliez de problèmes au niveau de l'estomac, quels autres risques ont-ils sur la peau ou sur la santé, ces produits ?
On peut, de façon générale, et ça a été dit dans le micro-trottoir, rappeler qu'un certain nombre de ces produits ont des effets, alors on parle de CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il y a effectivement des effets sur tout ce qui permet de fonctionner au niveau humain. Ça a aussi des risques comme pour les perturbateurs endocriniens. Ce qu'on appelle pesticides, ce sont les phytosanitaires, et beaucoup d'entre eux, je dirais même la plupart d'entre eux, ont des effets qui sont d'autant plus dommageables que leur concentration est importante ou que leur utilisation n'est pas forcément bien réalisée. Je pense en particulier aux professionnels qui utilisent ces produits et qui n'utilisent pas tous les bons moyens de protection. Je pense aux masques, les gants et les combinaisons. Quand il fait chaud, on sait très bien comment est-ce qu'on se débrouille avec.
Et parlons-en de ces professionnels. Donc, les produits toxiques sont souvent utilisés et principalement utilisés par les agriculteurs aujourd'hui, bien qu'il existe de nombreuses normes à respecter. Est-ce que cela n'a pas un impact sur les aliments qu'on a dans notre assiette et donc sur notre santé ?
Si ces produits sont actifs, c'est que soit ils agissent, si ce sont des insecticides sur les insectes, sur leur cible insecte, mais si ce sont des herbicides, tout simplement, il faut bien qu'ils rentrent dans la plante pour leur activité. S'il rentre dans les plantes, il n'y a pas que des feuilles et des tiges, il peut y avoir aussi des fruits, et en général, c'est ce qu'on consomme. On consomme les feuilles, on consomme les feuilles de salade, on consomme les fruits, les tomates, etc. Et donc, ces produits finissent soit dessus, soit dans les parties de plantes que nous consommons. Donc il faut y faire vraiment, vraiment attention.
Et les pesticides ne sont pas le seul produit polluant du jardin. On peut citer le mobilier, la décoration, les peintures utilisées dans notre jardin qui peuvent aussi avoir un impact sur nos sols. Comment savoir si notre matériel de décoration jardin est toxique ?
C'est pas vraiment simple. Je dirais que c'est même quasiment impossible de savoir. Je modère un petit peu parce que si le... Si ces moyens de décoration, vous les avez décorés vous-même, vous êtes peut-être là en moyen de mesurer cette toxicité. Si vous utilisez des peintures, des lasures pour le bois par exemple, vous pouvez peut-être choisir des produits en regardant les fiches techniques et en fouillant un petit peu, parce qu'il faut quand même aller très très loin pour le regarder. Mais par contre, si vous réutilisez des planches déjà existantes, vous héritez d'un jardin où une cabane est déjà construite et qui a fait l'objet d'une décoration précédente, rien ne vous dit que des déchets de ces peintures, parce qu'au fur et à mesure du temps, ça va un peu être délité et puis se retrouver dans vos outils et dans l'air que vous allez inhaler. Donc là, vous maîtriserez peut-être un petit peu moins les choses. Alors, sans forcer un peu le trait, mais quand même, vous savez très bien qu'avant 1960, on utilisait beaucoup de peintures au plomb. Il existe encore beaucoup de résidus de ces temps-là. Mais même plus près de nous, les peintures qu'on utilise pour traiter, ou les peintures ou les insecticides ou même les fongicides qu'on utilise pour protéger nos bois d'extérieur, sont dommageables. Et si vous réutilisez des planches que vous mettez dans la terre, dès qu'il va pleuvoir ou par humidité, il est possible qu'il y ait une certaine migration dans l'eau du sol et donc dans les plantes dont les racines se trouvent près de ces planches. Donc prudence.
Et peut-être que le public avec nous a des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main tout au long de l'émission. Nous allons tout de suite poursuivre, mais avant ça, faisons une courte pause musicale. Écoutons Respire, interprété par Mickey 3D.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Vous venez d'entendre Respire, un titre de Mickey 3D. Vous écoutez toujours La chronique qui déballe, l'émission qui propose un espace d'échange entre consommateurs et experts sur les thématiques environnement et santé. Et avant de continuer, il me semble qu'on a une question dans le public sur la thématique santé.
Oui, merci. Simplement, si on hérite de la grand-mère, il y a un bout de temps de ça, d'un jardin, et qu'à l'époque où on était encore adolescent, on l'a aidé à faire la peinture au minium de plomb, il y a quand même plus de 30 ans de ça, hein, puisque le temps passe vite, eh bien, est-ce qu'il faut mettre un traitement par-dessus pour protéger, éviter la contamination du minium de plomb, qui est une substance contaminante, ou bien décaper entièrement et à ce moment-là prendre, j'imagine, les précautions comme pour une centrale atomique, avec les chaussons, la combinaison, le masque et le toutim. Alors, qu'en est-il,
Monsieur Dessès,
pour honorer la grand-mère et nos travaux d'aide à l'époque?
J'aimerais juste faire le parallèle, mais sans aller jusque-là, avec l'amiante. C'est un peu la même chose. Non, on ne remet pas par-dessus, on ne cache pas la misère. Par contre, je pense que les précautions à prendre ne sont peut-être pas aussi importantes que dans le cas de l'amiante. Mais oui, il faut s'en débarrasser, et s'en débarrasser dans les règles.
Monsieur Polesi, quelque chose à rajouter ou...
Non, mais on touche au cœur de la problématique. C'est-à-dire que la Terre, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Que ce soit avec nos grands-parents ou plus anciens encore, il y a des pratiques. Et à ce titre-là, on peut quand même souligner que le monde a bien changé. C'est-à-dire que les pratiques d'il y a 40 ans ne sont vraiment plus les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Moi, je me souviens avoir vu mon grand-père utiliser de l'huile de vidange usagée dans le jardin pour bien tracer les chemins, enfin, des choses ou comme un tirouille, des choses qu'aujourd'hui, on ne voit plus personne faire. Enfin, vraiment, ça ne viendrait vraiment plus à l'idée. On a quand même bien progressé sur ce sujet, mais par contre, on est sur du temps long. C'est-à-dire qu'il faut avoir bien conscience que les contaminants qu'on a mis dans les sols pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh ben on les subit ensuite pendant des années et des années et des années et des années. Soit par voie directe, soit à travers leur dissémination dans toute la chaîne alimentaire. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve en jardinage, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres thématiques. Hein. La ville de Paris, aujourd'hui, n'a pratiquement plus de chouettes à cause de leur programme de dératisation. C'est-à-dire, en essayant de tuer les rats, ils ne se sont pas débarrassés des rats. Par contre, les poisons ont remonté la chaîne alimentaire et ont tué le principal prédateur du rat, la chouette. Donc on voit que les conséquences, elles sont à peser sur long terme, elles sont à travailler sur long terme, et avoir la réflexion de l'héritage. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant sur ce sol? Qu'est-ce que c'est que ce toit? Parce que le fibro-ciment, on pourra en parler une émission entière, hein, c'est très présent aussi encore. Voilà, ce sont de vraies réflexions.
Et bah parlons-en. Pour continuer sur notre sujet du jardinage, je donne donc la parole à M. Polessi qui vient de parler, élu de la ville de Strasbourg. Vous êtes donc en charge des jardins familiaux. Vous avez donné un petit peu l'histoire de ces jardins familiaux, mais pourquoi est-ce qu'ils existent très, très concrètement à Strasbourg et en France?
Alors, l'histoire est complexe. On a au 19e siècle une préoccupation double. 19e siècle, on veut à la fois que les gens puissent accéder à une nourriture saine et à la fois que les ouvriers soient occupés à travailler dans leur jardin plutôt qu'à penser à la révolution marxiste. Je fais ça à gros traits. Hein. C'est-à-dire qu'un travailleur qui est dans son jardin en train de désherber, d'user de l'huile de coude, il ne s'occupe pas à préparer la révolution. Donc il y a tout un courant qu'on qualifierait aujourd'hui d'industriel paternaliste qui consiste à attribuer des terres en parallèle des logements pour qu'il y ait de la culture. On a une très belle illustration avec la cité jardin au sud de Strasbourg, hein, quartier du Neuf, où on est vraiment là-dedans. C'est l'espèce d'autonomie, de paradis de l'autonomie. Et ça, ça a perduré. Hein, ça a perduré. Alors, selon les villes, on a des histoires différentes. Strasbourg a toujours eu une grande ceinture verte qu'on tente tant bien que mal de préserver. Et dans le cadre de cette ceinture verte, on a cette existence de jardin qui s'est développée avec le temps et qui a su être préservée à travers les décennies. Et aujourd'hui, on a un patrimoine exceptionnel. Enfin, il faut vraiment se rendre compte qu'une ville comme Lyon, il y a 1000 jardins familiaux. Paris, il y a 1000 jardins familiaux. On est à près de 5000. Quoi. C'est pour vous donner une idée des écarts. Enfin, c'est colossal ce qui se passe ici. En termes fonciers et en termes de patrimoine immatériel, parce que je le disais, quand on se promène dans les jardins, on voit des choses, c'est des mini-jardins d'Éden. Quoi. On se dit, mais c'est ici que tout se passe. Il y a vraiment aujourd'hui de grandes expertises. Oui, il y a de vrais paradis en ville, il y a de vraies expertises. On a des gens qui aujourd'hui sont très très instruits en permaculture et qui sont capables de vous expliquer pendant des heures comment optimiser le jardinage en fournissant le moins d'efforts possible.
Et donc, très concrètement, la ville de Strasbourg, pour ou contre les pesticides?
Contre les deux pieds sur le frein, mais ce n'est pas nouveau. Hein. L'arrêt des phytosanitaires à Strasbourg, c'était 2008, de mémoire, 2007-2008, aussi bien dans le traitement des espaces verts urbains que dans les jardins familiaux. C'est une vieille histoire et qui ne s'est pas démentie. Hein. Il y a plein d'autres façons de faire. Il y a l'huile de coude, les moyens mécaniques. Il y a aussi toute une réflexion sur le vivant. Hein, ceux qui sont branchés jardinage depuis quelques années se souviennent peut-être un moment de la mode des coccinelles. On pouvait acheter des larves de coccinelles par la poste pour enlever les pucerons dans le jardin. Ben voilà, c'est de la lutte biologique, hein, ça marche très très bien. Et aujourd'hui, on est très avancé dans ces méthodes-là. On voit des choses dans les jardins qui permettent vraiment de se passer complètement aussi bien de pesticides, d'insecticides que d'intrants. Et on a entendu dans votre micro-trottoir, hein, on a entendu parler de compost, on a entendu parler de ces pratiques-là. Aujourd'hui, elles sont très largement développées.
Une extinction a été mise en place en Alsace qui s'appelle Commune Nature, représentée par des libellules pour encourager toute ville à des pratiques respectueuses de la qualité et de la ressource en eau. Où en est la ville de Strasbourg à ce niveau-là?
Alors la ville de Strasbourg est une fois encore au maximum de ce label, c'est-à-dire à 3 libellules. Alors c'est très orienté, c'est effectivement porté par l'agence de l'eau en partie,
tout à fait.
Avec la région Grand Est, c'est aussi orienté préservation de la biodiversité. C'est peut-être un regret qu'on puisse avoir aujourd'hui dans le débat public, c'est la focalisation importante sur la question du dérèglement climatique, qui est une réalité massive et importante. Hein. Mais si on arrive à gérer le dérèglement climatique, mais qu'on reste les bras croisés devant l'extinction de la biodiversité, on n'ira pas beaucoup mieux. Les rapports qu'on a nous montrent une extinction majeure de la biodiversité. Certains parlent de 70% de disparition en un temps record. Et là, les jardins, qu'ils soient privés, qu'ils soient des espaces verts municipaux ou les jardins familiaux, ont vraiment un rôle majeur à jouer. Parce que ça peut être de véritables havres pour toute une biodiversité qui ne retrouvera pas d'espace par ailleurs.
C'est sûr. Et est-ce qu'il y a des contrôles des sols alors pour ces jardins familiaux?
Alors, vous vous doutez bien que sur l'historique, le volume complet de jardin, on a du mal à contrôler systématiquement, mais on a lancé une campagne d'abord historique. C'est-à-dire, on regarde historiquement qu'est-ce qu'il y avait là avant qu'il y ait les jardins. Et si on a des doutes sur l'activité qui était présente avant les jardins, eh bien, on fait des prélèvements. Mmh. On fait des prélèvements, des analyses, aussi bien au niveau des sols que de l'eau. oui. Puisque nos jardiniers pompent dans la nappe phréatique. Et là encore, on gère parfois des effets de l'histoire longue, puisque sur Strasbourg, à des endroits bien précis, en dessous de certains lotissements de jardins familiaux, eh ben, on a des nappes de pollution au niveau de la nappe phréatique qui datent de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale ou encore de la guerre de 70. Et ben là, à ce moment-là, on est bien obligé de prendre des mesures. En général, on ferme les points d'eau. Il peut arriver qu'on raccorde du coup les jardins à l'eau courante.
Okay.
Ou il peut arriver qu'on ne raccorde à rien et qu'on dise au jardinier, écoutez, il n'y aura plus moyen de puiser de l'eau. Si vous souhaitez rester là malgré tout, parce qu'il y a des moyens de faire, on vous accompagnera. Si vous souhaitez un autre jardin, on vous aidera à déménager. Donc il y a une vigilance permanente sur l'existant. Et bien sûr, dès qu'on repère un terrain qui nous semble propice à pouvoir installer de nouveaux jardins familiaux, parce que la demande est colossale, hein, on a près de 2000 personnes en liste d'attente, dès qu'on a une opportunité, là, le contrôle est systématique. Le contrôle est systématique, et malheureusement, on arrive un peu au bout, je crois, de ce qu'on peut faire sur une ville comme Strasbourg. C'est-à-dire que sur Strasbourg, comme sur toutes les autres grandes villes de France, on a un fond de pollution diffus, où on retrouve un petit cocktail industriel classique, hein, plomb, arsenic, voilà. Et dépolluer, c'est extrêmement onéreux. C'est extrêmement onéreux. On le fait quand on a l'opportunité du financement. On l'a fait il n'y a pas longtemps. On a eu le plaisir d'inaugurer des jardins à la Maya Athéna, à Haute-Pierre. 49 jardins, 1 million d'euros. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la seule méthode efficace pour la dépollution en temps court, c'est l'excavation et la remise de terre végétale. Donc c'est des moyens lourds. On n'a pas de réponse satisfaisante au niveau de la phytoremédiation, c'est-à-dire planter des plantes qui vont dépolluer dans la durée. C'est encore très expérimental et surtout, c'est sur du temps long. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, parce que notre responsabilité, c'est de gérer le passif et c'est aussi de préparer la terre pour ceux qui viendront après nous.
Nous avons donc parlé de l'impact des micropolluants qu'ils peuvent avoir sur notre santé, mais qu'en est-il de la planète? À ce jour, différentes études ont montré que tous les cours d'eau et près de 90% des puits d'eau contiennent des traces de pesticides. On comprend bien sûr que les micropolluants sont principalement émis par les agriculteurs, mais essayons d'imaginer leur impact. Selon vous, de quelle manière les pesticides polluent-ils l'environnement?
Comme je l'ai déjà évoqué, et puis comme ça a été dit par mon illustre voisin, il faut vraiment envisager tout cela comme un tout. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une molécule persistante qui se balade librement dans l'environnement, elle va être gobée par une toute petite bête ou par une plante, et ça va fatalement remonter la chaîne alimentaire jusqu'à votre petit estomac à vous. Et après, ça aura des destins divers selon la molécule dont on parle. Il y aura des localisations diverses et on va avoir des conséquences diverses. Le plomb, qui est le polluant probablement le plus courant aujourd'hui dans l'environnement, dans un pays comme la France, ce plomb, l'organisme va le stocker. Jusqu'à un certain seuil, ça ne pose pas trop de problèmes. Passer un certain seuil, notamment chez les enfants ou les personnes âgées, on a des conséquences sanitaires importantes, avec pour les enfants des retards de développement, des problèmes cognitifs. Les méthodes existent, on peut soigner. Il y a des méthodes qui permettent de se débarrasser assez facilement de ces contaminations une fois qu'elles sont inscrites dans le corps. Mais encore faut-il avoir conscience qu'on est contaminé. Ce n'est pas toujours aussi simple.
Est-ce que le public a des questions par hasard? Je vois une main se lever.
Oui, j'ai un élément de solution à proposer. Je ne sais pas, vous nous direz ce qu'on peut en faire. Mais les jardins ont généralement une cabane pour mettre les outils et tout. Pourquoi ne pas inciter les gens et les encourager vivement? Je vous dirai comment, c'est ça mon idée. À récupérer l'eau de pluie, tout simplement. On voit des bidons de 200 litres, souvent, au pied des gouttières. Mais on peut très bien, par exemple, la ville qui achète en très grande quantité 1000 bacs de récupération d'eau de pluie en plastique et qu'on céderait aux gens à prix de revient. Ça ne coûterait pas et ça aiderait beaucoup pour dépolluer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'eau de pluie.
Alors, l'eau de pluie, c'est une idée. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a découvert qu'on a franchi le seuil de potabilité. Donc, elle est plus totalement potable, notre eau de pluie, ce qui est quand même un comble. On a même réussi, c'est un peu la chanson de Mickey 3D, on a même réussi à empoisonner la pluie. Sur un plan bêtement technique, mais ça c'est de la tambouille, que la ville achète et revende, c'est très 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 compliqué, c'est un cauchemar. Maintenant, dans l'aménagement des jardins, quand on fait de nouveaux jardins, quand on met une gloriette, c'est effectivement une cabane à outils, on met systématiquement un bac de récupération avec. Donc on accompagne. On accompagne. Sur les jardins dont j'ai parlé, où quand on dit aux jardiniers, écoutez, on va arrêter l'eau, et on ne va pas mettre de l'eau potable parce que franchement c'est pas raisonnable. Ceux qui souhaitent malgré tout poursuivre l'effort de culture à cet endroit-là, on les accompagne et on rajoute des bacs. C'est-à-dire que on fait, pour les situations un peu tendues comme ça, on fait vraiment du cas par cas et on est dans l'accompagnement. Le problème, et ça, même si je suis mauvais jardinier, je suis quand même jardinier, le problème c'est que de l'eau de pluie, c'est bien, encore faut-il qu'il en tombe. Hein, puisque je vous rappelle qu'on vient de battre un record de durée sans précipitation, qu'on est dans une situation en France de sécheresse, non pas circonstancielle, mais systémique, c'est-à-dire qu'on a des nappes qui sont à des niveaux globalement très, 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 très bas, et ça, c'est notamment lié à l'absence de pluie. Et là, on n'est pas sans solution. Hein, il y a des méthodes aussi, le paillage, qui permet d'économiser l'eau qu'on apporte. La ville de Strasbourg organise chaque année un concours des éco-jardiniers pour ses jardiniers en jardins familiaux. Et cette année, on a offert aux vainqueurs des zoyas, hein, ces poteries qu'on met dans le sol, qu'on remplit et qui, par porosité, ensuite diffusent l'eau dans l'environnement proche, mais sans perte liée à l'évapotranspiration. Donc, il y a des réponses, mais on fait face à de sérieux défis, quoi. Alors, par contre, on peut peut-être se dire entre nous, parce que là, on est juste entre nous, hein, c'est intime, qu'il faut peut-être arrêter le maïs en plaine d'Alsace. Mais je déborde de mon périmètre.
Une autre question, peut-être ?
Oui, alors, si j'ai bien entendu, tu as dit que les micropolluants sont principalement émis par
les agriculteurs. Tout à fait.
Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vérifié ? Bon, c'est une question. Je suis très sensibilisée à l'idée que on n'est pas conscient chacun de tout ce qu'on émet comme micropolluant. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que chaque fois que je fais une machine de linge avec mes beaux vêtements en polycoton, avec des matières synthétiques, hein, on en porte tous, hein, même quand on achète la deuxième main, chaque fois qu'on lave une machine, on libère des micropolluants dans l'eau. Sans parler de toutes les matières plastiques qui se décomposent dans la nature, que nous jetons. Sans parler des médicaments, tout ce qu'on libère en allant aux toilettes, tout ce qu'on ingure.
Oui, tout à fait.
Oui, voilà, que nous...
Finissent aux toilettes.
Voilà. Donc, je pense qu'on est face à un défi où il faut vraiment que tous, on s'y mette, qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, à chaque acte, et qu'on s'encourage les uns les autres. Ben, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, à faire autrement. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je fais un jardin. On a la chance d'avoir, j'habite près d'Irstein, d'avoir Canopter tout près. Donc, une association qui devait d'ailleurs être là aujourd'hui, je crois.
Qui va passer juste après,
d'accord.
Tout à fait.
Donc, Olivier Lavaux qui forme tous ceux qui sont intéressés aux nouvelles méthodes de jardinage. Et l'histoire de couvrir le sol avec la paille, c'est génial. Quand il y a un coup de chaleur comme l'été dernier, on a des super résultats. C'est vrai qu'on n'a presque pas besoin d'arroser. Donc, et après, on a tout le plaisir aussi du résultat quand on essaie des nouvelles méthodes, hein, et quand on a aussi des voisins qui continuent à faire de façon traditionnelle, qui ont des jardins magnifiques, c'est génial d'échanger et de voir après, de dire, bah, tu vois, moi j'ai... Ou alors, de temps en temps, ils regardent par-dessus la clôture et ils disent, ah, mais comment t'as fait là pour... t'as pas arrosé d'échanger, voilà, lui, il a des bons conseils, moi... J'en ai des autres, et c'est vrai que parfois ils rigolent quand ils me voient me battre avec les limaces, parce que c'est vrai qu'au printemps c'est très compliqué, hein. Ils mangent toutes les bonnes petites plantes toutes fraîches là. Il y a des soirs où je passais 2 heures à ramasser les limaces. Voilà, mais bon, je pourrais vous en raconter des heures, je vais m'arrêter là.
Pour revenir sur les micropolluants, juste pour préciser, donc c'était micropolluants émis dans le jardinage. C'est la thématique d'aujourd'hui, donc c'est pour ça. Les pesticides sont principalement émis par les agriculteurs, tout en revenant sur le principe même de la chronique qui déballe, c'est de mettre en lumière tous ces micropolluants dans chaque domaine, donc chaque émission, une thématique. Oui, monsieur Polissi.
Oui, je crois que madame vient de pointer un point fondamental, que celui de la prise de conscience et du changement des pratiques. C'est compliqué. C'est compliqué. En général, le jardinage, c'est quelque chose qu'on apprend par transmission familiale. Hein. Voilà. Et alors, on s'est demandé, mais comment faire ? Là, on a déjà pu créer, sur les jardins familiaux de Strasbourg, 2 jardins qu'on appelle jardins d'avenir, à venir en 2 mots, qui sont des jardins à vocation didactique. C'est juste de montrer comment on peut faire autrement. Et ça crée des chocs de culture, hein. puisque bien sûr les personnes qui s'occupent de ces jardins en font le moins possible, puisque ça c'est un leitmotiv d'une certaine permaculture, et font et proposent des solutions. Enfin, moi, première fois que j'ai visité le jardin, j'étais vraiment stupéfait. Par exemple, j'ai découvert le jardin sec. Le jardin sec, c'est, on met ça dans un coin de son potager. De loin, ça ressemble à un tas de gravier avec du sable, enfin, quelque chose qui ressemble vraiment à rien. Ça ne s'arrose jamais. Et il y a toute une flore qui pousse là-dessus, qui va abriter toute une faune, qui va prendre soin de votre jardin à votre place. C'est quand même miraculeux. Et il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et ça ne demande ni entretien, ni arrosage, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre qui pousse, à part une sélection très précise de plantes. Voilà, quand on découvre ça, on se dit que... Moi, j'ai des souvenirs d'enfance, d'après-midi entière à désherber dans les rangs de haricots. On se dit qu'on a vraiment perdu du temps pour rien, quoi.
C'est ce qui est beau avec le jardinage, c'est qu'on en apprend toujours et que c'est un vrai partage. Merci pour toutes vos réponses. Passons tout de suite à l'info positive du jour. En parlant de pesticides, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a lancé le mercredi 15 février 2023 la procédure de retrait du marché du S-métolachlore. Le S-métolachlore est une substance chimique, autrement dit un pesticide, utilisé principalement pour la culture du maïs, autorisé depuis 2004. Selon leur dernière étude, il contiendrait une concentration estimée supérieure à la limite de qualité fixée par la législation européenne et serait très polluante. Bonne nouvelle pour les sols qui seront normalement un peu moins contaminés.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
On en parle donc depuis le début, l'utilisation de pesticides est souvent liée à un besoin d'exterminer les mauvaises herbes ou les nuisibles et pourtant, cela déséquilibre totalement les écosystèmes. Depuis 2017, les particuliers trouvent donc des solutions alternatives. C'est ce que nous explique Bernard, le président de l'association Canoptère, un écolieu, qui vous propose d'apprendre une méthode éco-responsable pour jardiner, la permaculture. Pouvez-vous définir les termes utilisés dans ce domaine ?
Alors écolieu, c'est, je ne sais pas si c'est le bon terme, souvent on pense à écolieu, à un lieu qui est plutôt habité, une expérience d'habitation. Ce n'est pas non plus un jardin partagé, c'est plutôt un jardin pédagogique, ce serait peut-être le meilleur terme. Voilà, mais c'est un écolieu au sens où on est soucieux de toutes les thématiques autour de l'écologie, puisque dans agroécologie, il y a écologie. Voilà, donc l'agroécologie, c'est en fait un lien entre agriculture et écologie. Souvent, on a des spécialistes de l'agriculture, des spécialistes de l'écologie. Et l'agroécologie, on peut dire que ça réconcilie les deux, c'est-à-dire qu'on essaye de faire effectivement de la production agricole, tout en étant respectueux de l'environnement dans lequel on produit. Donc on essaie d'avoir le moins d'impact possible tout en ayant quand même une idée de faire une production, puisque en tant qu'être vivant parmi les autres, on est tout à fait légitime à se nourrir aussi, mais par contre en essayant justement de ne pas détruire et d'avoir une activité pérenne, une activité de culture pérenne.
Et quel est le principe de la permaculture ?
Qu'on parle d'agroécologie ou de permaculture, les origines historiques ou géographiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, les principes qu'on respecte sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire, respect du sol, respect du vivant, partage avec tous les autres êtres vivants de ce qui est produit par le sol et par la terre, et par les végétaux. En fait, dans la nature, ça n'existe pas les monocultures. Une monoculture, c'est quoi ? C'est quelque chose pour lequel on a déjà considéré qu'on mettait une seule plante dans un seul milieu, et en plus on essaie de la généraliser à tous les milieux, et donc forcément par rapport à un état naturel d'équilibre, on crée des déséquilibres puisqu'on est déjà avec une seule sorte de plante, donc il n'y a absolument aucune synergie qui se passe, et donc pour corriger ces déséquilibres, après on amène des produits, on dit qu'on soigne les plantes, mais en fait non, c'est pas la peine de soigner les plantes, elles se débrouillent très bien toutes seules à condition de respecter leur mode de fonctionnement, à savoir plus on utilise la diversité à tout niveau et plus on a une chance d'avoir des équilibres qui se créent et donc d'avoir un sol, une végétation, des écosystèmes en bonne santé.
Parlez-nous des pesticides.
Bah, les pesticides, comme là on est aujourd'hui dans un troc graine, si vous imaginez ce que c'est qu'une semence de betterave, chez un betteravier, il va vous amener des petites billes bleues, qui sont des graines, certes, mais enrobées d'un pesticide, pour que justement au démarrage, il y ait déjà ce qu'il va appeler une protection. En fait, c'est juste, c'est un poison qui va éloigner évidemment les ravageurs qui pourraient s'attaquer à la graine, mais ce faisant, évidemment, ces produits-là, ils vont se diffuser dans le sol, et ils vont se retrouver dans l'eau, ils vont aller polluer tout l'ensemble du système qui est à côté, par l'eau, par l'air, etc. Et en fait, il suffirait d'avoir un sol en bonne santé, avec des associations de plantes qui éloignent ou qui offrent pas des boulevards aux ravageurs quand on a une monoculture, pour que les choses s'équilibrent. Mais évidemment, d'un point de vue industriel, c'est plus compliqué d'avoir des plantes mélangées, de les récolter, donc ça demande plus de soins, plus de main-d'œuvre, etc.
Mais quelles sont les solutions alors ? Comment jardiner sans pesticides ?
Alors, bah, le principe même, c'est d'observer ce qui se passe dans la nature et de s'en rapprocher le plus possible. C'est-à-dire que, comme ce que je viens de dire, dans la nature, on n'observe jamais un sol qui est nu, un sol labouré. Retourner le sol, ça veut dire, on le sait maintenant, puisqu'on a quand même des éléments scientifiques à l'appui pour expliquer qu'il y a des bactéries, par exemple, qui sont anaérobies, c'est-à-dire qui vivent en profondeur sans air, et des bactéries qui sont en surface et qui ont besoin d'air. Idem pour toute la faune et la microfaune et les micro-champignons qui sont dans le sol. Donc si, quand on fait un labour, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on retourne complètement tout et on tue à la fois celle du haut et celle du bas. Et donc le sol va avoir du mal à se rééquilibrer, donc premier déséquilibre important. Ensuite on va semer des graines qui sont des espèces de chimères de la semence pure, de la plante pure, du génotype pur, de toutes les plantes qui sont exactement similaires à des clones. Donc on est dans cette espèce de croyance que pour que ce soit bien, il faut que tout soit hyper aligné, standardisé. En fait, c'est exactement le contraire de la logique naturelle. Deuxième perturbation monstrueuse. Et en plus, après, ben, on essaye de nourrir les plantes avec, en ne prenant en compte que les éléments chimiques. Donc on va nourrir la plante, alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est le sol qui va nourrir la plante. Et nous, on a juste à prendre bien soin du sol et à nourrir en fait toute la faune, les champignons et les bactéries, etc., pour qu'ils soient dans un équilibre qui va permettre justement de créer des synergies avec la plante. Et à ce moment-là, on aura une plante qui va s'épanouir dans un sol en bonne santé et qui sera elle-même en bonne santé et en compagnie de plein d'autres plantes qui vont se protéger les unes les autres. Donc il y a l'aspect association de plantes. Donc voilà, on a tout faux, quoi, en gros.
Alors, jardiner sans utiliser de produits nocifs, c'est tout à fait possible. Nous avons donc parlé permaculture, mais il y a également plein de substances naturelles. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon jardin alors pour quand même le faire prospérer sans utiliser de produits polluants ?
Je pense que la première chose, mais ça a déjà été dit, c'est de nourrir le sol et le rendre plus vivant. Le rendre plus vivant, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de vie à tous les étages, du microcosme jusqu'aux insectes qui sont utiles. Et pour cela, la meilleure méthode, c'est de produire son propre compost. C'est très très facile. Tous les déchets organiques ou presque de la cuisine peuvent y contribuer. Et le faire de façon importante. Ensuite, le paillage, bien sûr, ça évite que le sol ne se retrouve nu, ce qui est très très important, mais ça participe aussi de son alimentation et de la production vivante du sol. Donc ça, c'est vraiment le plus fondamental. Et il faut faire attention, alors c'est peut-être un peu chimique, mais il faut faire attention à ne pas mettre trop d'azote dans les sols. Une certaine rareté est très très bénéfique au sol, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc voilà, je dirais principalement, c'est faire en sorte qu'on ait le maximum de diversité possible et un côté vivant du sol. Il y a d'ailleurs un critère, si vous allez vers des champs qui sont cultivés en conventionnel, il y a quelque chose qui est absolument dramatique, mais qu'on se rend compte très vite, c'est la couleur du champ quand il est laissé nu. Des champs marrons, marron clair, c'est pas des sols vivants. Un sol vivant, il est noir parce qu'il y a de la matière organique et parce qu'il y a énormément de vie dedans. Voilà. Mais normalement, on ne devrait même pas voir cette couleur puisque il ne faut jamais laisser les sols nus.
Notre émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voici l'agenda de l'environnement. L'association CINE vous propose une sortie pour découvrir les rapaces nocturnes de notre région le 4 mars à 19h30. Retrouvez toutes les informations sur le site internet Sortie Nature. Un autre événement aura lieu le 4 mars à 15h au centre Bernados, l'inauguration de leur fresque végétale dans le but de revégétaliser la ville. Rendez-vous au 30 rue du Maréchal Juin. Et pour finir, le mercredi 7 juin marquera le jour du Forum de l'éducation à l'environnement à l'école de Bory à Oswald sur la thématique des mobilités actives et citoyennes de 9h à 12h. On le répète, mais les pesticides ont des effets néfastes sur l'homme, sur la faune et sur la flore. Son utilisation peut être contre-productive et peut nuire à la plante et détruire les sols. De nombreuses substitutions sont trouvées pour jardiner de façon naturelle et des lois sont mises en place pour respecter les sols et moins polluer. Peut-être que nos experts ont un dernier mot pour la fin ?
Bon, ce que je voulais dire pour terminer, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de mettre nos plantes dans les meilleures conditions possibles. Et ça, il n'y a pas de mystère, ça dépend du choix des jardiniers.
Monsieur Polici ?
Oui, on a beaucoup parlé de chimie, de pratique. J'aimerais juste décentrer beaucoup, que ce soit au niveau des pesticides ou au niveau des intrants. En fait, on se rend compte que c'est dicté par une certaine logique du rapport au temps. Le jardinage, le respect de la nature, c'est quelque chose qui prend du temps. Chasser les limaces à la main, c'est sûr, c'est long, c'est pénible, ça prend du temps. Il faut qu'on réinvestisse un rapport à nouveau positif au temps, qu'on soit moins pressé, qu'on arrête de courir après des résultats immédiats et de court terme, et peut-être que les choses iront un peu mieux.
Voici donc trois points à retenir, les solutions de nos experts. Tout d'abord, naturel ne veut pas toujours dire bio ou sans danger. La deuxième, dans la nature, ça n'existe pas la monoculture, donc ça détruit totalement l'équilibre. Et pour terminer, le principe est toujours d'observer la nature et de se rapprocher le plus possible de ce qu'elle peut produire naturellement. Un grand merci à vous d'être venu, Monsieur Dessès, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin. Et à vous, Monsieur Polessi, adjoint à la mairie de Strasbourg, en charge de la coordination des élus du quartier, l'accueil du public et les jardins familiaux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci également au public d'avoir été présent. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous de la chronique qui déballe qui aura lieu le 24 mars à la ruche 35 au quartier Spar. À cette occasion, nous essayerons de répondre à la problématique des produits ménagers pas chers et non toxiques pour ma santé et l'environnement. C'est possible. Encore un grand merci à Batigère de nous avoir accueillis dans leurs locaux, à la Fondation Batigère et à la ville de Strasbourg pour son soutien. À tout bientôt et prenez soin de votre santé et de l'environnement. La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement.